po, 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 po. Et la brique, c'est de la merde, toi-même, tu sais. Po, 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 po.
www.libradio.org, la radio qui fume du Schmitt et qui kiffe pas les keufs.
Voilà, nous sommes donc en direct. Bienvenue à toi, auditrice, auditeur. Nous sommes en direct depuis le Salon du Livre Anarchiste, ici à Berne, comme hier, hein, aux mêmes heures, plus ou moins, que hier. Et nous sommes ravis d'y être jusqu'à 18h aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a eu un workshop, on reviendra sur le programme. Il y en a eu en fait déjà deux workshops, dont un que l'on a pu capter et que l'on présentait hier sur le consensus, sur les prises de décision collectives. C'était fort intéressant et ce podcast sera disponible sur le site de la radio, je pense, dès cette nuit. Et nous voilà de retour sur le site principal de l'événement du salon en compagnie de David. Bonjour, bienvenue à toi.
Salut.
Et David, tu es parmi nous. Alors déjà, on va juste faire un petit point. On va juste dire qu'aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel parce qu'il fait beau. Mais en même temps, il y a plein de monde dedans également. Les stands sont dûment achalandés et les personnes autour circulent avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bienveillance. Tout se passe très bien.
Complètement, c'est super. On est très contents d'être là.
Ah bah, j'imagine.
On vous remercie de l'invitation.
En tout cas, voilà, toi, tu es là à titre double, en fait, et nous allons donc effectivement opérer cet entretien en deux parties. Alors, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais peut-être que d'ores et déjà, on va dire quelles sont ces deux casquettes. Alors, il y a d'une part Nada Édition, que tu vas présenter incessamment.
Ouais.
Et puis...
Obo Diffusion.
Merci, voilà. Et Obo Diffusion. À toi de voir par quoi tu veux commencer.
Ça marche. Eh ben, on va commencer par Obo.
Ok.
Donc Obo, c'est une structure de diffusion qui existe depuis maintenant 6 ans. On est présent, on est basé à Paris, en France. C'est une structure dont la volonté, c'est de permettre à plein d'éditeurs, des éditeurs indépendants, libertaires, contre-culturels, on va dire, de pouvoir être présent en fait dans les circuits un peu classiques justement de la librairie, sortir du milieu juste militant de l'entre-soi, un peu des copains, et permettre justement à ces éditeurs-là qui ont de vraies propositions à faire, de pouvoir trouver aussi un autre public que notre public, on va dire, de base, qui est les copains qui sont acquis à la cause, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc la diffusion, en gros, pour expliquer un peu, parce que c'est pas toujours très
oui,
clair.
Tout à fait. Quel est l'emplacement dans le circuit livre, diffuseur, libraire et tout.
Distributeur et autres. Donc la diffusion, en fait, c'est la partie. Alors des fois, dans nos milieux, ça peut faire un peu bizarre, hein, mais c'est la partie commerciale entre guillemets. Nous, on est une structure, on est quatre représentants. L'idée, donc voilà, c'est de représenter des catalogues d'éditeurs en librairie. Donc on va voir régulièrement, trois fois par an, en fait, on a trois programmes de nouveautés et on va voir les libraires, on leur présente les nouveautés de ce catalogue-là. Donc la diffusion, c'est vraiment la partie faire circuler en gros l'information que les bouquins sont sortis. Qui sont disponibles. Et il y a une partie dont on travaille après en collaboration avec un distributeur qui, lui, la distribution, donc c'est la partie logistique. C'est eux qui ont les stocks des bouquins et qui les envoient ensuite aux libraires, qui s'occupent de la partie facturation. Vraiment la partie logistique. Et nous, la diffusion, donc c'est vraiment la partie un peu commerciale, entre guillemets.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui explique votre présence ici dans un salon ?
Parce que tous les éditeurs qu'on présente sont presque des éditeurs anarchistes. Et justement, nous, c'est aussi une autre façon de faire de la diffusion. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est être présent quand même, dans le livre, dans les circuits classiques, on va dire. Mais justement, en même temps, nous, notre ADN, on vient de là, on vient du milieu militant, c'est d'être présent sur les salons. Mm-hmm. Et puis, de représenter les éditeurs qui ne peuvent pas tous être présents non plus. Parce que, on représente donc une cinquantaine d'éditeurs.
Ah, quand même.
Voilà. Donc après, c'est des bons. Il y a tout type de structure. Hein. Ça va de la structure où il y a une personne qui fait un livre tous les deux ans. Et il y a des structures un peu plus conséquentes avec des petits collectifs qui sont une dizaine et qui vont sortir jusqu'à une dizaine de nouveautés par an, quoi. Mais tout le monde ne peut pas être présent sur les salons. Et puis c'est quelque chose qu'on aime bien.
D'accord, je vois bien. En tout cas, vous êtes derrière un stand qui est splendide. Hein,
avec merci.
On va revenir peut-être sur quelques pépites comme ça que tu as envie de nous présenter. Mais avant ça, justement, j'aimerais encore te poser quelques questions concernant ce travail, justement, de, comme tu l'as dit, hein, qui est un petit peu... finalement, oui, un petit peu commercial.
Ouais, ouais, non, mais c'est, bon, il faut pas avoir peur des mots non plus.
Non,
ça,
non, mais, c'est, mais justement, ça, vous l'assumez assez facilement, enfin, pour vous. Y a
ah,
des
bah
fois
ouais,
où...
complètement. Ouais, mais ouais. À partir du moment où on fait du livre, je veux dire, le but, c'est que les livres, ils soient vendus. Enfin, vendus. Il faut qu'ils circulent, il faut qu'ils trouvent leur public.
Voilà, ouais, ouais.
Et justement, bah, ça partait du constat aussi que pendant trop longtemps, bah, justement, l'édition militante ou les choses comme ça, bah, ça reste un peu d'entre-soi. Et si on veut bah, changer les choses, si on veut faire bouger un peu les lignes, si on veut faire bouger le monde, bah, il faut qu'on arrive à sensibiliser d'autres gens. Que notre propre milieu, quoi.
Ouais.
Alors que ça vient vraiment de ce constat-là. Mmh. Voilà, donner le maximum de diffusion par tous les canaux possibles, en fait, à nos idées, quoi, aux idées qu'on défend.
Ouais, tout à fait. Très concrètement, ça veut dire que comment ça fonctionne, vous ? Alors, vous constituez des catalogues thématiques ou, en tout cas, j'imagine que à dessein ou vous avez une idée derrière la tête quand un catalogue est formé ?
Alors non, en fait, c'est on travaille à la nouveauté, c'est-à-dire que chaque éditeur avec qui on travaille, à partir du moment où on décide de travailler avec un éditeur. Qui correspond aux choses qu'on a envie de diffuser. Bon, bah, on va travailler toutes ces nouveautés qui vont paraître. Donc, bah, voilà, nous, en gros, on a une sorte de rythme de publication. On fait voilà, 3 tournées par an qui correspondent un peu. Voilà, il y a des mois dans l'année. Enfin, c'est bien calé, on va dire. Et voilà, et on annonce en fait nous les titres qui vont paraître les mois suivants en fait.
D'accord.
Voilà.
Donc ça, c'est de ce côté-là. Et puis ensuite, vous. L'idée, comme tu l'as dit, c'est d'avoir le plus, d'être une caisse de résonance d'une certaine manière.
Tout à fait.
Et alors, justement, quelles sont les méthodes ? Y a-t-il des astuces, des trucs qui, avec l'expérience, fait qu'on va, voilà, on sait un peu comment on doit faire
Bah, l'idée, c'est aussi de, en fait, comment dire, participer aussi un petit peu à une professionnalisation, enfin, de l'édition militante. Et du coup, bah, aider les éditeurs aussi à faire des beaux livres qui plaisent aux libraires, tant sur le fond, mais aussi sur la forme, quoi. Donc après, les astuces, il faut dire que dans le milieu du livre, malgré tout, il y a une forme de sympathie envers nos idées. C'est-à-dire que globalement, les libraires sont rarement des gros fascistes réactionnaires. Ça peut se trouver, mais globalement, c'est plutôt des gens... sans qu'ils soient tous libertaires ou anarchistes, mais qui ont en tout cas une certaine sensibilité aux choses qu'on leur présente. Quoi. Donc globalement, bon, bah, après, il faut quand même, il faut quand même défendre des bouquins, il faut leur expliquer en quoi c'est intéressant. Mais après, bon, non, il n'y a pas d'astuce à part que de faire des beaux livres, de faire des livres intéressants, de faire des livres qui sont bien faits. Mmh. Et à partir de là, bon...
Ok. Dis-moi, tu as dit que vous êtes situé à Paris.
Oui.
Quelle est la situation à Paris ? J'imagine que c'est quand même un vivier, c'est extrêmement effervescent.
Ouais, il y a beaucoup de monde.
Parce que t'imagines bien qu'ici, justement, quand on est. Bon, bah là, on est à Berne, mais même en Suisse, typiquement, même que ce soit toute la Suisse romande, c'est un bassin beaucoup plus petit. Alors, comment est la situation à Paris ?
Bah, c'est sûr qu'à Paris, effectivement, il y a une concentration assez importante de collectifs, d'éditeurs. Cela dit, depuis quelques temps, on assiste, en fait, il y a d'autres pôles qui sont créés, alors ça, c'est vachement intéressant, justement, ça change un petit peu que tout soit concentré à Paris, ce qui est en plus lié un peu à l'histoire française, à la structure du pays, avec Paris qui centralise un petit peu tout. Ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant quelques années, en fait, voilà, il y a d'autres pôles, d'autres villes, où il y a plein d'autres collectifs d'éditeurs avec qui on travaille. En fait, les autres pôles maintenant d'éditeurs un peu, il y a Toulouse, qui est une ville vachement vivante, où on travaille avec 4 ou 5 éditeurs qui viennent de Toulouse. Rennes en Bretagne aussi est devenu un autre pôle, on a 5 éditeurs qui viennent de Rennes et puis après un petit peu partout quoi. Mais c'est vrai que à Paris de fait par sa concentration, par tous les collectifs qui existent, tous les réseaux militants restent prédominants, mais bon, c'est intéressant justement d'avoir des choses qui viennent aussi un petit peu d'ailleurs quoi.
Ok, vous avez un très chouette site internet.
Merci.
Avec une newsletter très dynamique et tout et tout, ça j'imagine que pour vous l'outil numérique est central.
Alors oui et non. Parce que effectivement, il faut qu'on puisse nous trouver rapidement. Si un libraire ou n'importe qui, même un lecteur potentiel, il cherche un bouquin, effectivement, il va tomber sur le site, ça va lui donner les références. Mais en fait, nous, ce qu'on privilégie vraiment, pour le coup, c'est la rencontre avec les libraires, les déplacements en librairie. On est beaucoup sur le terrain, parce qu'on se rend compte que finalement, pour parler de nos idées, il faut quand même être là, il faut être présent, et on défend jamais mieux un livre. Quand on peut en parler directement au libraire. Donc c'est vrai que ça pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important, d'être régulièrement, donc on se balade beaucoup, En tout cas, on va partout. Alors au départ, c'était une structure, c'est moi qui l'ai créée il y a maintenant 6 ans. Au départ, j'étais tout seul. Maintenant, on est 4. Alors pas tous à temps plein, bon, on s'arrange aussi. Mais du coup, au départ, moi, j'allais aussi bien en gros de Bruxelles à Marseille et de Toulouse à Lille en passant par... donc je me baladais beaucoup. Maintenant, le fait qu'on soit plusieurs, ça permet un petit peu de répartir un peu les déplacements. Mais encore maintenant, je me déplace assez régulièrement, quoi. Et l'idée, c'est de couvrir aussi un territoire, en tout cas, donc maximum de territoire en France, en Belgique. Alors en Suisse, c'est un petit peu différent, pour la raison que la Suisse, en tout cas, ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc avec les droits de douane, plus il n'y a pas le système de transporteur qui existe en fait et qui marche aussi bien en Belgique. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc pour la Suisse, on a dû trouver une autre astuce. En fait, on travaille avec un autre diffuseur-distributeur qui est basé ici, qui est basé, je pense, ils sont à Genève. Et du coup, on envoie le catalogue et ici, sur place, il y a un représentant qui va voir les libraires suisses pour leur présenter les nouveautés de ce catalogue.
D'accord. Voilà. Le site internet, on n'a pas dit encore l'adresse, me semble-t-il. Alors, veux-tu peut-être le faire toi ou je le fais moi ?
Si tu veux, donc c'est www.obo-diffusion.com.
Très bien. Et donc dessus, on va notamment mentionner la newsletter. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et du coup recevoir les informations.
Tout à fait.
C'est quoi, c'est hebdomadaire ?
Non, c'est non. Tous les mois, on fait le rappel en fait de tous les titres qui viennent de paraître. On annonce tout ce qui est sorti le mois précédent, quoi.
Ok. Voilà. Alors tu l'as dit, vous êtes beaucoup sur les routes encore quand même.
Tout à fait.
Entre la Suisse, la Belgique, la France. Enfin la Suisse, tu l'as dit un peu moins, mais en tout cas.
Voilà.
Outre-mer, Canada, Québec.
Alors, on travaille très bien avec les copains de la librairie L'Insoumise, librairie anarchiste de Montréal. D'ailleurs, qu'on va aller voir d'ici 10 jours après le salon anarchiste de Berne. On part à Montréal.
Exactement.
Et on va aller voir les copains là-bas. Alors bon, à part avec eux, où les relations sont extrêmement bonnes, et puis on a trouvé un système pour faire envoyer des bouquins. Sinon, c'est un peu plus compliqué avec le système de librairie classique, pour des raisons là de transport, enfin juste pour des raisons purement logistiques, quoi. Après, vu que là, on va partir une quinzaine de jours, l'idée c'est de, outre les copains de l'Insoumise et la participation au salon anarchiste, c'est d'aller faire un petit tour aussi, d'aller voir quelques librairies, se présenter, voir comment on peut essayer de travailler un peu à distance, quoi.
Et d'autres pays francophones. La francophonie est un vaste monde.
Bien sûr, bien sûr.
L'Afrique, par exemple, le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça où, justement, y a-t-il des collectifs, des auteurs, des éditions un peu anars ou engagées, en tout cas, qui vous sollicitent ou non ?
Pour l'instant, je t'avoue, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Je me constate un peu. Bon, c'est pas fait, hein, mais je sais que des copains vont se rendre au Salon du Livre, alors pas anarchiste, mais au Salon du Livre classique d'Alger au mois d'octobre. Bon, on se dit que ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire un tour, prendre quelques contacts, voir un peu ce qui se passe. Bon, ça, on verra, ça fait partie des idées futures. Mais c'est vrai que pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas plus de contacts que ça pour le moment.
Mais tu l'expliques ou comment tu l'expliquerais ou en fait, on ne sait pas, on se questionne juste. Parce qu'il y a certainement des collectifs, j'imagine,
certainement.
Offensifs. En Algérie, on a fait un travail avec des athées, le mouvement athée.
Ouais, bien sûr. Bon, alors d'un point de vue juste historique, c'est vrai que le mouvement anarchiste a moins percé, c'est moins développé, en Afrique du Nord en tout cas, en Algérie il y a eu des collectifs libertaires, en Tunisie au début du et en Égypte aussi avec les Italiens au début du XXe siècle.
Ouais.
Voilà, mais c'est vrai que depuis la décolonisation, depuis il y a d'autres mouvements qui ont émergé, et malheureusement les idées libertaires en tout cas n'ont pas réussi à percer. Les choses peuvent changer aussi, je pense que ça viendra.
Est-ce que c'est beaucoup vous qui prospectez ou est-ce que c'est beaucoup des personnes qui vous sollicitent ? Ça va plus dans quel sens ou ça va peut-être, c'est peut-être bien partagé ?
C'est nous quand même qui allons taper aux portes, quoi. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir une attitude un peu offensive, quoi. On y va, quoi. Il faut trouver des débouchés, il faut aller convaincre des gens. Donc après effectivement y a un peu tout aussi, hein, des libraires nous contactent aussi souvent parce que des libraires qui on travaille pas, un lecteur vient lui demander un livre dont il a entendu parler. Et du coup, ils nous contactent et puis comme ça, on commence une petite relation et ainsi de suite, quoi. Mais c'est vrai que le travail qu'on a fait, c'est vraiment un travail de prospection au départ. Enfin, c'est d'aller taper aux portes, de se renseigner dans telle ville, quel libraire potentiellement est plus un peu sympa, serait à même de travailler avec nous, recevoir nos bouquins. Donc voilà, c'est quand même un gros travail qu'on a fourni nous au départ, quoi.
Bon, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail, dont beaucoup de corps de métier, j'ai envie de dire. C'est un peu transdisciplinaire comme ça. Est-ce à dire que vous êtes également des gros lecteurs ou vous pouvez quand même pas aussi quand même?
Ah oui, quand même. Ouais. Enfin, on aime le livre et du coup, bon après, effectivement, on a malheureusement des limites physiques, temporelles et autres. Mais oui, on essaie de lire. Alors, on lit pas tous les livres qu'on diffuse, évidemment. Hein. Ouais. Après, on a aussi nos centres d'intérêt et tout. Mais l'idée, c'est de, en tout cas, on peut parler de tous les livres qu'on va diffuser. Ça, c'est le travail aussi qu'on fait en amont avec les éditeurs, qui doivent justement au mieux nous présenter un peu leur titre, nous expliquer un petit peu quel est son intérêt, qui sont les auteurs, de quoi traite le bouquin. Parce que nous, en fait, le travail, ça, il faut le comprendre, c'est que quand on va voir les libraires avec le nouveau catalogue, c'est des livres qui ne sont pas encore parus. Mm-hmm. Nous, on travaille vraiment les titres en amont, pour que quand le livre, il est officiellement, il sort de chez l'imprimeur, il est apporté chez le distributeur, dans les 15 jours qui suivent, il va être livré un petit peu partout où là il a été commandé. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est des sortes de précommandes.
Ouais.
Donc effectivement, quand nous on va voir les libraires, le livre il n'existe pas, sauf quand c'est une réédition ou des choses comme ça. Mais donc c'est vraiment un travail là en amont avec l'éditeur qui va nous présenter, nous expliquer un petit peu l'intérêt de ce livre-là. Et puis après, nous on va lire aussi ce qui nous intéresse en fonction de son intérêt propre.
J'y reste. Ça veut dire que est-ce que quand vous vous trouvez les bonnes personnes, les bonnes issues, avec les bons libraires et tout, et tout. C'est des relations qui durent dans le temps, qui sont des relations vraiment de confiance.
Ouais, bien sûr.
Je pense que ça joue beaucoup là-dessus.
Ouais, complètement. Et ça, on est d'autant plus triste quand des fois on apprend que tel libraire avec qui on travaillait super bien, qui était et nous apprend que pour une raison ou pour une autre, il quitte la librairie par ailleurs. Et là, des fois, c'est vrai que mauvaise surprise, le libraire ou la personne qui va la remplacer. Et pas tout à fait les mêmes sensibilités. Et là, tout de suite, il faut recommencer un peu tout le travail. Mais ça se fait.
D'accord, ça fait 6 ans, tu as dit que vous étiez.
Ouais, ça fait 6 ans. Moi, personnellement, ça fait plus de temps encore. Mais en tout cas, cette structure-là, ça fait 6 ans maintenant qu'elle existe, quoi.
Alors, Obo Diffusion, on va redire le site internet www.obo-diffusion.com. 6 ans, ça veut dire que soit on est enraciné. Et soit on est peut-être encore à la recherche de nouvelles aspirations, ou est-ce qu'on est au beau diffusion?
Effectivement, là, on commence à sentir, en tout cas, tout le travail qui a été fourni depuis quelques années, ça fait un peu plus longtemps, mais en tout cas, où on sent que là, on commence vraiment à être un petit peu posé. Les 4 premières années ont été quand même des années, il faut se battre, il faut... mais depuis maintenant 2 ans là, on commence à sentir un petit peu une sorte de basculement, et c'est vrai que jusqu'à présent même certains libraires qui nous recevaient un petit peu par pour leur propre conscience, pour se dire on reçoit les petits indés anards là et commencent à s'apercevoir en fait finalement qu'on a aussi des titres qui marchent aussi, et que d'un point de vue commercial aussi, eux aussi ont intérêt finalement à ne pas louper certains de nos titres, certains livres sur lesquels il va y avoir de la demande, donc là on sent un petit peu une bascule, et on sent que maintenant ça embêterait certains libraires si on n'allait plus les voir et si on leur disait on arrête de travailler avec vous. Donc le travail il est encore long, parce qu'on reste quand même sur des structures qui sont quand même malgré tout assez fragiles, parce que l'économie du livre est extrêmement particulière. C'est quelque chose de très très fragile et qui peut basculer, je ne dis pas d'un moment à l'autre, mais la situation, c'est des métiers où... pour parler juste en termes économiques, parce que nous on salarie, c'est notre travail, véritablement. On est sur des métiers où dans le livre, les marges sont extrêmement faibles. Et on n'est pas non plus sur quand même des volumes, on reste quand même sur une édition militante, sur des choses comme ça, donc on est quand même sur des petits tirages, sur des ventes qui restent modestes. Après, on peut avoir des titres qui montent très 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 haut. Par exemple, une des meilleures ventes qu'on a, c'est quand même un éditeur suisse qu'on peut signaler, c'est l'édition Entremonde, c'est l'ouvrage Caliban et la sorcière de Silvia Federici.
Magnifique.
On doit en être maintenant à 10 000 exemplaires.
D'accord. J'allais justement te demander... un livre chouchou, ce serait pas une sympa question, parce que tu pourrais pas évidemment te y a-t-il quand même des petites choses, des petites pépites comme ça qui t'ont touché au travers des âges?
Il y en a beaucoup. Après, comme ça là tu me prends un peu au dépourvu, il y en a tellement. On a un catalogue maintenant de je sais pas, on doit avoir 1200 références peut-être, tout compris. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres comme ça dans le catalogue. Bon, c'est vrai que Caliban, voilà, il fait partie de... c'est un titre extrêmement, extrêmement important. On a eu un très beau titre l'année dernière aussi de Samir Boubendien qui s'appelle « La colonisation du savoir ». Qui est un ouvrage comme ça au départ qui semblait pas facile, qui est sur en fait l'appropriation par les Occidentaux des savoirs autour des plantes médicinales dans le Nouveau Monde en fait à partir du 15e siècle et qui au départ comme ça paraît un bouquin un peu voilà sur des sujets très pointus et qui en finalement c'est un peu une autre histoire de la colonisation mais justement à travers l'appropriation des savoirs. C'est un très beau bouquin, la réalisation en plus est magnifique, c'est les éditions des Mondes Affaires, des éditeurs qui sont à côté de Lyon. Voilà, qui ont fait un magnifique travail, ça a mis à porter son bouquin, enfin, c'est vraiment voilà, un chouette titre. Quoi. Et dès comme ça, on en a un petit ouais, un certain nombre. Quoi. Ça, bon, j'invite les lecteurs à aller voir sur le site et à découvrir les éditeurs. Voilà, et on a plein de petites pépites qui traînent.
Absolument. Je te propose encore une question et puis ensuite on passerait à Nada
ouais,
Edition.
Très bien.
Et bien. Avant ça, on fera une petite pause musicale pour reprendre notre souffle tranquillement. Je me demandais si vous êtes également réactif, vous êtes attentif ou justement à dessein pas à une forme d'actualité. Quand je dis ça, je pense au monde complexe et délicat qui nous encercle. Voilà, alors effectivement, récemment, le véganisme a pas mal surgi, les questions de genre, d'assignation du sexe également. Il y a cette question des personnes en exil aussi. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous contenez, en tout cas, auquel vous êtes attentif dans votre travail ou justement pas?
Alors, en fait, nous, enfin, avec Obo, en tout cas, on dépend finalement de la production des éditeurs de ceux. C'est vrai que. Mais effectivement, de fait. Je veux dire, vu que les 80% des éditeurs avec lesquels on travaille sont des structures militantes et engagées dans un certain nombre de combats, de fait, tous les titres qui paraissent un petit peu en ce moment, outre on va dire des textes un peu classiques d'histoire ou des choses comme ça, concernent globalement ces questions-là, les questions de genre, qui sont une des grosses questions un peu du moment. Et donc, du coup, on a beaucoup de publications autour de ça. Effectivement, les questions des migrants, des migrations, c'est une autre question aujourd'hui, effectivement, extrêmement prégnante dans l'actualité. Et donc, on a plusieurs éditeurs qui traitent de ces questions-là. Et effectivement, les questions alors plus larges, on va dire, de décroissance, écologie, question anti-industrielle, retour à une forme, à l'autonomie. Là je parle pas d'autonomie du mouvement autonome, hein, je parle de l'autonomie en tant que conception, d'être autonome par rapport au système. Voilà, c'est des choses, effectivement, il y a plusieurs éditeurs qui se consacrent un peu à ces questions-là. Et c'est de fait aussi, effectivement, les livres en ce moment qui marchent le mieux. En librairie sur lesquelles il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de retours.
D'accord. Toute dernière petite question, puis ensuite on fait la pause musicale. Est-ce que vous êtes également sensible à certaines rééditions? Je pense à quand tu as cité Entremonde. Typiquement, moi j'étais ravi quand Entremonde a réédité La Révolution inconnue de Voline.
Ouais.
Je me suis précipité dessus.
Ouais.
Est-ce que ça fait partie également du catalogue
Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, bah, pour le coup, après. On se situe après Obo, personnellement on se situe plutôt nous carrément dans le courant, dans l'histoire du courant anarchiste. Après Obo, on essaye de lui donner quelque chose d'un peu plus ample, on va dire, ne pas le cantonner juste à ça. Et c'est vrai que parmi les éditeurs avec qui on travaille, on a un vaste panel qui va en gros, on a les classiques anarchistes entre guillemets, les organisations. Bon, en France, on bosse avec aussi bien la CNT, les éditions du Monde Libertaire, qui sont les éditions de la FA.
Voilà, mais il y a tellement de choses en France.
Il y a les classiques. Après, on travaille avec un certain nombre de collectifs qui eux s'en revendiquent plutôt. Là, des courants autonomes, mais cette fois, les courants ultra-gauche et autres. On travaille aussi avec les trotskistes des bons caractères. On travaille avec les décroissants, les anti-industriels, la lenteur. On travaille. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir un panel assez large, on va dire, l'extrême gauche du PC, on va dire, la gauche, l'ultra gauche et la gauche libertaire, dans toutes ses composantes et dans toutes ses manifestations, on va dire. Quoi.
Quel est le livre auquel tu t'attendrais dans ton idéal lequel serait-il ? Quel serait son sujet ? Que contiendrait-il ? Enfin, tu vois, s'il y avait un livre idéal, un peu comme ça, que vous seriez amené à promouvoir.
Ah, je sais pas. Après, je sais pas s'il y a un livre idéal. Après, il y a plein de livres idéaux. Enfin, moi, ce que j'aime bien, effectivement, c'est les livres qui... c'est les beaux livres, les livres bien faits. Mmh. J'aime bien, enfin, où il y a à la fois, enfin, une adéquation entre le fond et la forme, où il y a, enfin, une belle écriture aussi. Enfin, voilà, il faut un ensemble de choses pour faire.
C'est une très bonne réponse. Voilà. Hein, je veux dire, voilà, il faut que ce soit quelque,
c'est ça, un objet
quelque chose
qui
de complet.
Puisse, ouais. Exactement, exactement. Où tout est travaillé, enfin, vraiment de A à Z. Enfin, aussi bien l'écriture, une belle écriture ciselée, enfin, qui est bien pensée, et en même temps, bah voilà, le graphisme qui va avec, qui accompagne aussi la lecture, parce que c'est vrai que c'est important aussi. Un objet, c'est vraiment, un livre, c'est un objet. Complet, fini, et qui est vraiment une adéquation, voilà, entre le fond et la forme. Quoi.
Ouais. Quand tu te rends dans ce type de salon-là, comment est-ce que tu opères la sélection des livres que tu vas mettre à disposition ? Sachant qui tu vas voir, tu
un
fais quand même un petit
film. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, on sait maintenant aussi, voilà, depuis le temps, avec l'expérience, un peu sur les salons. Alors, en fonction des salons, effectivement, plutôt quel type voilà, d'ouvrage, en fonction un peu du public. Et après, on sait qu'il y a des trucs un peu intemporels, voilà, certains bouquins qu'on vend presque tout le temps.
Ouais. Très bien, très bien. Je te remercie, David, pour cette première partie. Donc, nous parlions jusqu'à présent de Hublot Diffusion. Hublot Diffusion, le site internet, c'est www.hublot-diffusion.com. Nous faisons une petite pause musicale et puis on revient pour toujours avec toi, David, pour cette fois-ci les éditions Nada.
À tout de suite.
Petite pause et on se retrouve.
A travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again.
Nelly the elephant rocked and jumped and said goodbye to the circus. Off she ran with a trumpety jump, rum, jump, jump.
Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
tac 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 à la tac 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 tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre contre-attaque.
Voilà, nous voilà de retour en direct et en public depuis le salon du livre anarchiste ici à Berne, à la Mensa, à la cafétéria de l'Université de Berne. Il est 15h30 et nous sommes à nouveau en compagnie de David.
Rebonjour.
Rebonjour David. Et cette fois-ci, c'est pour avec la casquette des éditions Nada. Alors, je crois que je vais immédiatement te donner la parole. Qu'est-ce donc que les éditions Nada ?
Alors, les éditions Nada, c'est une petite maison d'édition qui existe depuis 4 ans maintenant, dont l'idée est de faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. On a plusieurs choses. On fait à la fois des essais historiques, on fait des petits textes d'intervention, on fait de la bande dessinée, on fait un peu de littérature. Enfin voilà, l'idée c'était de faire ce qu'on a envie de faire, enfin, des choses qui nous paraissaient... qui manquait ou pas, je sais pas, mais en tout cas, se faire plaisir et faire des objets dont on est content et dont on est fier.
D'accord. Dis-moi, quand on est du coup éditeur, est-ce que ça veut dire qu'on est un petit peu auteur ? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que soi-même on a voulu l'être et pour les accidents de la vie, les choses de la vie ont fait qu'on ne l'est pas ? Alors ça, c'est pour une des versions. La deuxième version est que quand on édite un bouquin, on le fait. On le fabrique pour de vrai.
Tout à fait.
La césure, c'est là qu'il faut qu'elle soit. Le lettrage, la police, tout ça. Ça veut dire qu'on est concrètement dans l'artisanat du livre. Donc, ça veut dire qu'on est quelque part un petit peu auteur.
Oui. Personnellement, les deux fondateurs de Décision Nada, on est tous les deux un petit peu auteurs aussi. Auteur, c'est un bien grand mot. Hein, mais en tout cas, on a écrit chacun des textes à droite à gauche. Ouais. Moi en particulier sur l'histoire du mouvement anarchiste en Amérique latine, au Mexique.
Dites donc. Comment c'est le titre du livre ?
Alors il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a plusieurs petites choses que j'ai publiées ailleurs. Enfin, j'ai publié un livre au Mexique, mais personne ne trouvera ici. Après, j'ai publié par exemple, il y a une aux éditions Libertalia, il y a une petite anthologie de textes de Ricardo Flores Magón qui s'appelle Propos d'un agitateur, dont j'ai fait l'introduction.
D'accord.
Et on a publié chez Nada plusieurs ouvrages. Il y en a un qui s'appelle Viva la sociale, l'autre Amérique anarchiste, qui sont des recueils de textes sur l'histoire du mouvement anarchiste en Amérique latine et auxquels j'ai contribué en tant que, là cette fois-ci en tant qu'auteur.
D'accord. Ça veut dire qu'il y a un vrai lien entre éditeur et auteur. Quand on devient éditeur, c'est que quelque part.
De toute façon, c'est vrai qu'en tant que le travail d'éditeur, c'est vraiment chapeauté. Il faut avoir en tout cas un minimum de. Il faut pouvoir être polyvalent et pouvoir intervenir à tous les moments quand même sur la réalisation d'ouvrages. Donc ça peut être aussi bien sur le texte, sur une traduction, sur la maquette, sur il faut quand même avoir une vision globale de l'objet. Et en particulier quand dans des structures comme les nôtres où justement tu parlais d'artisanat et vraiment nous on revendique ce statut d'artisan et de pouvoir maîtriser toute la production du livre. Donc, alors que dans d'autres structures, y a vraiment une segmentation des tâches qui sont liées à la division du travail et autres. Nous, on est obligé de presque tout faire nous-mêmes.
Ouais.
Et en même temps, c'est une volonté aussi. Moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir vraiment depuis certains livres. On les a pensés, on a écrit une partie. Moi, je fais une grande partie des maquettes de nos bouquins. On l'édite. Et en même temps, on va encore plus loin parce que dans la partie, on parlait de la partie diffusion. Donc avec Obo, on diffuse aussi les ouvrages de Nada. Donc c'est vrai qu'on maîtrise presque toute la chaîne de production.
Bien sûr.
Depuis l'étincelle, la petite idée qui germe dans la tête et jusqu'à son arrivée presque par la partie distribution et l'imprimerie. On est obligé de faire appel à d'autres intervenants. Mais on maîtrise quand même une grande partie de la chaîne de production. Et ça, pour nous, c'est vachement important. Parce que ça rejoint aussi certaines de nos conceptions, de l'autonomie, de pouvoir. Et aussi une forme d'artisanat et de faire des belles choses et apprendre à les faire.
Il y a, dans l'équipe, combien êtes-vous ? Et y a-t-il justement quelques petites affinités ? Peut-être que quelqu'un, justement, dans le long processus que vous. opérer, ben voilà, il y a quelqu'un qui est plus peut-être lui à débusquer des choses ou pas. En fait, tout le monde a envie vraiment de tout faire.
Ouais, c'est ça. Enfin, on est deux véritablement aux éditions Nada. Après, c'est pareil, on travaille, on a plusieurs collaborateurs extrêmement réguliers qui sont des gens extrêmement importants. Enfin, on va dire, on est deux. Décideurs, enfin, en tout cas c'est nous qui pensons, enfin voilà, qui décidons un peu de la ligne éditoriale. Mais après on a voilà plusieurs copains avec qui on travaille depuis maintenant assez longtemps. Par exemple je pense à notre graphiste Cédric, voilà qui est presque notre directeur artistique. Donc c'est quelqu'un en qui voilà on a une grande confiance et qui nous aide beaucoup. Et on essaye d'être assez fidèle après avec les gens avec qui on travaille, quoi, que ça soit des traducteurs, que ça soit des notre graphiste et autres.
Ok, on était sur le site internet que là aussi hein, on n'a pas encore nommé, donc on va le faire tout de suite. C'est www.nada-edition.fr. Alors on regardait là aussi un site vraiment splendide hein, de ce côté-là, vous êtes bien. Hein.
Merci.
C'est clair, non mais dans le sens où c'est dynamique, clair.
Oui, bon, on essaie de faire effectivement que l'info elle soit facilement, enfin que les choses soient identifiables et que voilà, on puisse trouver rapidement les informations, quoi, sans en faire trop non plus dans les fioritures.
Non, voilà, c'est ça, c'est que c'est non, c'est vraiment l'équilibre. Enfin, moi je trouve qu'il est vraiment nickel pour ça.
Merci.
Alors on a, je t'en prie, Victor Serge comme auteur, là Pierre Kropotkin également, Fréhel. Ça c'est un voilà, comment est-ce qu'on débusque, comment est-ce qu'on fouine, comment est-ce qu'on fouisse. On a des contacts, on a des rabatteurs, c'est comme la chasse, c'est comment?
Ouais, il y a un peu de tout. Puis, là, effectivement, bon, moi j'aime bien aller fouiner. Ça fait des... enfin, après, j'ai une formation aussi qui vient de là aussi. J'ai au départ une formation universitaire qui m'a amené à faire des recherches pendant longtemps. Donc, c'est vrai que grâce à mes recherches, j'ai pu aborder plein de sujets différents, trouver des. Donc voilà, il y a des idées qui, des fois, un bouquin qu'on va sortir dans 6 mois, en fait, c'est un truc que j'ai depuis 10 ans, que j'avais trouvé lors de, où... Après, j'aime bien les fouiner chez les bouquinistes, j'aime bien... Et puis après, on a des copains qui nous proposent des sujets, on a tout un réseau aussi assez vaste de collaborateurs. Donc après, c'est un savant mélange, entre guillemets, mais de... d'idées qui traînent comme ça dans un coin, qu'on se met dans un coin de la tête, et puis qu'un jour, hop, il y a l'opportunité qui fait que ça va sortir. Ouais. Après, il y a des trucs, on a un programme qui est quand même en gros prévu jusque là, fin 2019. Et en même temps, il y a 15 jours, il y a un copain, un militant syndicaliste qui me dit « Ouais, il faut absolument qu'on sorte un petit bouquin là sur, sur toutes les manifs en ce moment en France et sur... » Et on s'est dit allez ok hop on va l'intégrer vite fait et puis il sortira à la rentrée.
Okay.
Bon voilà ça dépend un peu. Il y a des choses que on fonctionne aussi des fois classique. Il y a des choses en particulier là pour tout ce qui est roman graphique. On regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Pour certains titres on a acheté les droits. Le livre nous plaisait. Il y a vraiment différents canaux, différentes sources.
Y a-t-il même des fois, par exemple, je ne sais pas, vous avez des auteurs comme ça avec lesquels vous êtes en contact régulier, dont vous savez le talent et puis auxquels vous suggéreriez de se pencher sur des sujets d'actualité, des choses un petit peu singulières ou brûlantes ou tu vois, des choses comme ça.
Ça se fait
ça... Ah oui, ça se fait, ça se fait carrément. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a... pas encore eu le temps en fait de le faire. Après on en a plein des idées comme ça effectivement qu'il faudrait faire un bouquin sur tel aspect, sur telle chose, mais des fois on a un auteur mais on sait pas quoi lui demander, et d'autres fois on a un sujet qu'on aimerait bien mais on sait pas quel auteur demander, enfin mais ça se fait, je te dis, un petit peu comme ça, comme les choses elles viennent aussi. On essaie de pas trop se prendre la tête là-dessus. Ça prend déjà tellement de temps, les bouquins, les traductions, enfin il y a tellement de travail.
Oui, absolument, voilà. J'imagine. Ouais. Et puis dis-moi, est-ce que là aussi, moi je me souviens, ça fait longtemps, mais ça fait très longtemps, donc peut-être m'étais-je trompé, mais à l'époque je voulais lire La désobéissance civile d'Henri David Thoreau. Mmh. Le livre étant épuisé, les droits n'étant pas disponibles, le truc ne pouvait plus paraître, en gros. Et puis, Mille et une nuits, je crois, a pu, à un moment donné, acquérir les droits. Enfin, ce que je viens de dire là, est-ce que c'est du domaine du possible ou c'est ce que,
alors,
c'est
une, non, en fait, alors, sur, par exemple, les droits de Thoreau, je pense que Thoreau, il est mort depuis suffisamment longtemps. Donc, sur l'œuvre de Thoreau en tant que telle, il n'y a plus de droits. Elle est libre. Par contre, sur la traduction qui existe, si c'est une traduction plus récente,
oui.
Là, potentiellement, effectivement, donc ce qu'il est possible de faire dans ce cas-là, c'est de trouver un nouveau traducteur, faire une nouvelle traduction. Mais en tout cas, le texte à l'origine est libre. Par contre, effectivement, des fois, sur des textes étrangers, ce qui peut poser problème, c'est la traduction. dont les droits appartiennent soit au traducteur c'est encore vivant, voire parfois à ses ayants droit, donc ses descendants ou les personnes qui gèrent le patrimoine du traducteur. Quoi.
Ça veut dire que typiquement, Kropotkin ou Victor Sèche, pour prendre ces deux exemples-là, a priori, puisqu'ils ont été écrits en français, ces deux-là.
Le Victor Sèche, un peu compliqué, parce que non, en fait, c'est un texte espagnol. Pourtant, Victor Sèche n'a pas écrit en espagnol, mais c'est un texte en fait qui va publier. Donc, c'est un essai critique sur Nietzsche. C'est un texte qui est c'est une sorte d'inédit, en tout cas en français, de Victor Sèche. Victor Sèche, il va l'écrire au moment, donc il va être impliqué dans l'histoire de la bande à Bono, oui. Et il va être condamné à de la prison. Et quand il sort de prison, en fait, Sèche, il part quelques mois à Barcelone. Et à Barcelone, en fait, il va découvrir. Alors là, il passe de l'individualisme anarchiste duquel il se revendiquait. Il va découvrir le mouvement ouvrier catalan, la Confédération nationale du travail, la CNT anarcho-syndicaliste. Et là, ses conceptions vont commencer à évoluer. Et donc, ce texte, il va l'écrire, en fait, donc il l'écrit en français. Mais il est à Barcelone à ce moment-là. Il est traduit en espagnol. Il va être publié dans la presse anarchiste espagnole, dans Tierra y Libertad. Mais on perd ensuite, en fait, la version française, elle est envoyée à la presse, mais elle ne sera jamais publiée parce qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre. Le texte se perd, quoi. Et donc, du coup, c'est une traduction de l'espagnol du texte de Sèche. Ouais. Là-dessus, alors sur Sèche, il y a quand même des ayants droit.
Qui serait la famille, les descendants, peut-être ?
Alors non, c'est pas de la famille, c'est des amis du fils de Victor Sèche, Vladi, qui vivent au Mexique. Mais c'est des copains et elle en est d'accord. Par contre, effectivement, Kropotkin, il est mort depuis suffisamment longtemps pour que
ce soit tranquille.
Voilà, mais ça, c'est pareil. C'est un texte qui s'appelle Agissez par vous-même, qui est une traduction de texte inédit de Kropotkin qui n'avait jamais été traduit en français. C'est des textes qu'il a écrits en fait dans Freedom, le journal anarchiste anglais, qui va contribuer à fonder dans les années 1880, et qui sont une sorte de complément, un petit peu, enfin une autre vision de La conquête du pain. La conquête du pain, c'est le recueil d'articles de Kropotkin qui est vraiment le texte important dans lequel Kropotkin pose en gros les bases du communisme libertaire en gros. Dans La conquête du pain, Kropotkin essaye d'imaginer à quoi peut ressembler une société anarchiste à l'échelle de la taille d'une ville. En l'occurrence, là, il s'inspire de l'exemple de Paris après la Commune. Et dans ce recueil de textes, qui s'appelle Agissez par vous-même, là, c'est la même démarche, mais appliquée. Cette fois, donc là, il est en Angleterre et il essaie d'imaginer à quoi pourrait ressembler une société anarchiste, mais à l'échelle de la taille d'un pays et donc de l'Angleterre de l'époque. Et c'est dans une traduction de Renaud Garcia. Renaud Garcia, par ailleurs auteur, qui a publié des textes à l'échappée et spécialiste de Kropotkin.
Ok. Tout ça, c'est aux éditions NADA. On le rappelle, le site internet, c'est à l'adresse suivante www.nada-edition.fr. Où est-ce qu'on vous trouve, à part sur internet ? Là aussi, vous écumez les salons ?
Oui, tout à fait. Et dans toutes les bonnes librairies.
Donc, que ce soit en France, également en Suisse, tu sais si vous
tout
êtes...
Tout à fait. Oui, en Suisse, à Lausanne, il y a Basta, évidemment. Il y a à Genève, il y a Fahrenheit, évidemment. Je crois qu'il y a de la librairie du boulevard. Et tous les livres peuvent être commandés dans n'importe quelle librairie, normalement, sans problème.
Ok, alors le travail maintenant des éditions NADA, selon toi, où se situe-t-il ? À quel point est-il ? Y a-t-il des aspirations comme ça, des moments clés qu'il ne faut pas rater ? Et si c'est le cas, où est-ce qu'on en est là maintenant ?
Écoute, je ne sais pas. Après, on ne se pose pas tout à fait ce genre de questions. Enfin, pour le coup, l'idée, c'est vraiment, tu vois, de se faire un peu plaisir, de faire les choses qu'on a envie de faire, sans... sans prétention, sans... déjà notre nom, NADA, ça vient d'espagnol, ça veut dire rien. Après, ça renvoie à un certain nombre de choses.
Ça me fait penser à Puigantig, au Mille, enfin, des choses comme ça.
Il y a le roman de Manchette, qui s'appelle, de Jean-Patrick Manchette, qui était un auteur de polar des années 70, qui s'appelle NADA, et qui est l'histoire, en fait, d'un groupuscule.
Dont le film a été fait, non.
Si, c'est tout à fait, par Chabrol.
Chabrol, exactement. Oui, je vois tout à fait.
Il y a ça renvoie aussi Nada, donc qui veut dire rien en espagnol, qui renvoie aussi à Stirner.
L'unique et sa propriété.
Exactement, et qui dit qu'il a fondé sa cause sur rien. Bref.
Tout à fait.
Voilà, il y a le côté un peu nihiliste russe qui nous plaît pour un certain nombre
d'aspects.
Enfin, voilà, il y a le côté Nada, effectivement, c'est de l'espagnol aussi, pour un certain nombre de raisons. Les deux fondateurs des éditions Nada ont un lien particulier avec l'Espagne et l'Amérique latine. Voilà, donc c'est voilà, plein de petites choses comme ça. Mais effectivement, Nada, c'est aussi c'est rien, et en même temps, c'est voilà, on se prend pas la tête, on fait les choses qu'on a envie de faire. Voilà, et donc bah, pour l'instant, on a fait tout ça, on a plein de projets.
Ouais.
Où est-ce qu'on sera dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, on verra bien. Quoi.
Mais peut-on dire que la situation est au beau fixe ou à tout le moins optimiste que...
Écoute, ouais, non, ça se passe bien. Bah, on arrive en gros à mener les projets qu'on a envie de faire. On arrive bah, voilà, en faire d'autres, à avoir plein d'auteurs. Donc pour l'instant, on est content. Après, bah, c'est vrai que pour une petite structure, le travail... il est énorme.
J'imagine.
Et des fois, on est un peu submergé par bah, entre une volonté d'en faire toujours plus et puis bah, voilà, les propres limites, voilà, ce que je disais tout à l'heure, temporelles ou physiques, qui malheureusement bah, sont des fois nous freinent, ou même économiques aussi, hein, parce que des fois, on se lance sur des gros projets. Et en même temps, bah, au départ, on n'a pas. Enfin, voilà, hein, on est des artisans et on est des fils de prole, et donc du coup, on n'a pas de capital, quoi. Donc on fait avec les moyens qu'on a. Mais bon, bah, voilà, avec un peu d'huile de coude, avec un peu d'idées, avec des copains, avec des réseaux de solidarité, bah, on arrive à faire des choses et voilà quoi.
Mais alors ça veut dire qu'il faut ou il ne faut pas qu'on lance un appel en disant autrice, auteur, contactez les éditions Nada, envoyez-leur des manuscrits dès lors qu'ils sont engagés, qu'ils sont offensifs, singuliers.
Ils peuvent bien sûr. Après c'est hyper compliqué parce que c'est vrai que on en reçoit assez régulièrement des manuscrits, ouais. et en même temps bah, c'est dur de traiter toutes les infos, enfin tout et de pouvoir malheureusement toujours répondre aux multiples sollicitations, parce que c'est vrai que bah, avec une structure comme la nôtre, voilà ce que je disais tout à l'heure, par exemple déjà le programme en gros il est presque bouclé déjà jusque fin 2019, voire je pense qu'on aura même du retard sur certains titres, donc là on est même jusque 2020. Et donc du coup bah, c'est vrai que et comme je te disais aussi, c'est que des fois bah, il suffit que hop un truc nous branche et on arrive à le glisser, voilà, donc on a eu quelques belles surprises comme ça, de hop un auteur qui nous contacte, on regarde, on se dit waouh ouais, génial, et vas-y bingo on y va, parce que c'est super quoi, voilà. Mais c'est vrai que malheureusement l'édition ça marche aussi un peu, c'est beaucoup aussi des réseaux de relations, c'est aussi des rencontres, des copains, des choses comme ça. Et c'est vrai que malheureusement, bah, y a plein d'auteurs, et ça, il y en a beaucoup qui comment dire, je sais pas, bah, galèrent, ils envoient leurs manuscrits, ils n'ont pas de réponse, ils envoient un petit peu partout. Mais alors, c'est pas non plus une mauvaise volonté de notre part de ne pas leur répondre, mais c'est que des fois, voilà, on est submergé aussi par le travail, on a beaucoup de demandes et on n'arrive pas toujours à répondre voilà, aux multiples sollicitations.
D'accord. Écoute, on arrive au terme de cet entretien. Je te remercie beaucoup. J'ai encore une ou deux petites questions et puis, je te laisserai tranquille parce qu'il y a le stand et puis que vous êtes deux, mais il faut bien que chacun fasse un petit peu sa pause. S'il fallait que je te demande des mots-clés pour qualifier ton métier d'éditeur, lesquels seraient-ils ces mots-clés ? Passion, engagement,
Quoi d'autre ? Artisanat, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Enfin, en plus, dans cette... volonté de ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir gérer au maximum par rapport justement à la spécialisation du travail telle qu'elle a été, elle se met en place après avec le capitalisme au 19e siècle, avec l'industrialisation, avec moi j'aime beaucoup justement ces vieux savoirs qui étaient tenus par les artisans, par un certain nombre de métiers, où il y a véritablement un vrai savoir qui se développe. Et puis qui se transmet aussi de génération en génération. Donc effectivement, je dirais artisanat, indépendance, autonomie et lutte.
Très bien, et lutte. Bon, écoute, ça sera le mot de la fin. Je trouve que c'est un joli mot de la fin. Je te remercie beaucoup, David, d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris tout ce temps là. On va avec beaucoup de plaisir. Donc on le rappelle, les deux choses, les deux entités pour lesquelles tu es venu. Dont tu es venu nous parler, eh bien, c'est les éditions Nada que l'on retrouve sur le site internet suivant www.nada-edition.fr et également obodiffusion, www.obo-diffusion.com. Merci beaucoup. Bon courage pour la fin du salon. Et
merci.
À bientôt.
Ciao. Ciao.
Voilà, alors nous, eh bien, on va faire une petite pause musicale et puis ensuite avoir la suite du programme est encore un petit peu floue, mais on aime bien des fois avancer masqué, ça fait marrer les gens. Allez, une petite pause musicale et on revient juste derrière. Sachez, auditrices, auditeurs, que quoi qu'il en soit, le direct, c'est jusqu'à 18h et que les podcasts et tout, c'est sur le site www.libradio.org. À tout à l'heure.
On fait le plein de bière, on monte dans le camion, et la musique à dos, fouet en retour, t'as pas.